Je vous propose d'ouvrir vos Bibles. Moi, j'ai laissé la mienne dans ma sacoche de la voiture, mais vous pouvez ouvrir la vôtre. Dans la première épître de Pierre, on a passé plusieurs dimanches à voir, à parcourir cette première épître de Pierre et on va recommencer encore ce matin. Quelques phrases d'introduction. Je dirais, comment répondons-nous à ces questions? D'où venons-nous? Quelle est notre origine? Où allons-nous? Quelle est notre destinée? Et quel est le sens qu'a notre existence? Comment menons-nous notre barque? Quelle est notre éthique? Comment nous dirigeons-nous ici-bas? Bon, je crois que la réponse de notre société, de notre siècle, c'est que chacun a sa vérité et que finalement chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pas la réponse chrétienne. La réponse chrétienne à tout ça, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus en a fait dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et à la suite de Jésus, l'apôtre Pierre, qui avait le souci de ses frères et sœurs, a écrit cette lettre, cette première lettre de Paul, du moins celle que le Saint-Esprit a conservé pour nous. Et il avait le souci que les chrétiens, ses frères et ses sœurs, soient sur le bon chemin, qu'ils marchent dans la vérité et qu'ils trouvent une vie pleine et entière, dont a fait mention Morel dans son introduction tout à l'heure. Dans cette lettre de Pierre, on trouve que l'origine, le point de départ sur lequel il part, c'est toujours Jésus-Christ, la croix de Golgotha, là où nous l'avons rencontré, là où nous nous sommes convertis, là où nous avons réalisé que nous avons besoin d'être pardonnés par un Dieu infiniment plus grand que nous et auquel nous avions des comptes à rendre. Et parfois il va reculer plus loin, il va parler de l'autrefois, de ce qui se passait avant notre conversion, mais généralement son point de départ, on va voir, c'est Jésus-Christ, c'est la croix, c'est la conversion. Et puis il parle de la destinée, qui est certaine dans son propos, hein, le ciel, retrouver Jésus dans la maison de son Père, qui est devenu aussi, quand on est chrétien, notre Père. Et donc, entre l'origine et la destinée, nous sommes là, et en marche sur un chemin, le chemin de la sanctification, comme on dit, un mot technique dans le jargon de la Bible, pour parler de cette transformation qui nous fait, comme le temps passe, ressembler de plus en plus à la personne de Jésus-Christ, être transformé à l'intérieur de nous-mêmes pendant cette marche. Et donc l'apôtre donne beaucoup de recommandations dans son sens. Ces recommandations sont données à cause de l'origine ou à cause de la destinée. Et il les situe toujours entre ces deux bornes. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Alors je vais relire le texte. Tout simplement, on va pas aller jusqu'au fond, jusqu'à la fin, mais on va essayer d'en lire une bonne partie avec quelques observations. Voici comment l'apôtre Pierre commence sa lettre que je lirai dans la production second 21. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, ce qui correspond à l'Asie mineure, en gros la Turquie d'aujourd'hui. À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduit à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Au tout début de notre vie de chrétien, il y a Dieu et notre origine en Christ. C'est Dieu qui élit, sanctifie, purifie. C'est Dieu qui est à l'origine des chrétiens que nous sommes. Nous ne sommes pas des chrétiens qui nous sommes formés, déclarés nous-mêmes, mais nous sommes l'œuvre de Dieu, une nouvelle création de Dieu. Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, dit que nous avons été élus avant même la création du monde. Depuis toute éternité, Dieu avait prévu que nous soyons là ce matin, il le savait. Alors, une première application par rapport à cette introduction, c'est est-ce que nous en avons conscience de ce grand privilège que de connaître Dieu par Jésus-Christ? Et on parle de quoi? On parle de Dieu. Continuons. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Il nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante, l'origine et la destinée. Pour un héritage, et il précise, pour un héritage qui ne peut se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, il vous est réservé dans le ciel à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Pas pour tout de suite, donc. Une origine, la nouvelle naissance, une destinée, une espérance vivante. Et entre les deux, la foi. La foi. Sous la bonne garde de Dieu. C'est au moyen de la foi que nous allons faire ce pèlerinage, que de la nouvelle naissance jusqu'à la présence de notre Seigneur, quand nous le verrons face à face. Alors, est-ce que je suis au clair de mon salut? Est-ce que ça percute dans moi cette idée d'être élu? Qu'est-ce que ça... Est-ce que j'acquiesce ou est-ce que je dis, je ne comprends pas trop ce que l'apôtre veut dire? Est-ce que je peux dire, je suis né de nouveau, oui, par la mort, par la résurrection de Jésus-Christ, par la démarche de foi que j'ai fait envers lui? Ça nous interroge. C'est une première application parce que l'apôtre n'a encore parlé de rien du tout qu'il faille faire. Il n'a donné aucune recommandation, aucun impératif. Mais il plante le décor là. Le salut. Être au clair avec son salut pour la suite de notre texte. Verset 6. C'est ce qui fait votre joie. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes peu de temps attristé par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Alors, si vous vous posez la question, mais est-ce que vraiment je suis un chrétien auquel Pierre s'adresse? Regardez, est-ce que cela fait votre joie? Est-ce que ces paroles qu'a écrites l'apôtre Pierre résonnent en vous? Vous provoque en vous une joie. Si c'est le cas, ah ben, c'est un des bons témoins, des bons indicateurs que oui, le Seigneur est dans votre vie. Si cette joie résonne, s'il y a résonance avec ce que l'apôtre Pierre dit ici, c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, s'il le faut, vous êtes peu de temps attristé par les épreuves. Je ne vais pas trop parler des épreuves ce matin, on en a beaucoup parlé, des souffrances dans les semaines passées. Regardons quelle est la raison de notre pèlerinage. Un douloureux pèlerinage entre notre origine et notre destinée, il aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il y a un sens, il y a un fruit qui va pousser de cette marche chrétienne qui est parfois souvent difficile, qui n'est pas simple. Cette foi qui nous fait persévérer, dans laquelle nous persévérons par la foi et pas par la vue, elle aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Cette louange de demain se gagne par une vie fidèle aujourd'hui. C'est le résultat de notre vie d'aujourd'hui qui prépare cette louange et cette gloire de demain. Alors, on ne mesure pas ce qui nous attend dans le ciel. Il parle l'apôtre de ces choses extraordinaires qu'on nous a mal à saisir. Mais ce qui est certain, c'est que la façon dont nous vivons notre vie chrétienne maintenant va avoir un impact sur ce que nous vivrons dans le ciel plus tard. Il y a une relation entre les deux. Poursuivons verset 10. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, de leur investigation, tout ce qui concerne l'Ancien Testament. Ils cherchaient ces prophètes à découvrir l'époque, les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Ils annonçaient les souffrances du Messie et la gloire dont elle serait suivie. Est-ce qu'il parle de la gloire de la résurrection? Il y a peu de prophéties qui concernent la résurrection du Messie dans l'Ancien Testament. C'est beaucoup moins important que la gloire du royaume messianique. Ce royaume qui fait rêver. Là où le loup habitera avec l'agneau, là où il ne se fera aucun mal, là où la connaissance de Dieu remplira la mer comme le fond des remplira la terre comme la mer couvre le fond des océans. Peut-être pour illustrer, il serait bien de lire le prophète Ésaïe chapitre 4 versets 2 à 4 si quelqu'un veut bien lire ces quelques versets. Ésaïe chapitre 4, versets 2 à 4.
Ésaïe 4.
Oui.
Verset
2 à 4.
En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel habitera sur toutes les tendues de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée. Une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert.
Une gloire à venir. Alors c'est merveilleux de connaître le Seigneur. C'est super de vivre avec lui dans le cœur. Mais la gloire est à venir. Le problème de l'homme en général, c'est qu'il cherche la gloire maintenant. Maintenant, il veut la gloire. Maintenant, il veut la reconnaissance. Maintenant, il veut exister. La gloire ne peut pas cohabiter avec le péché. La gloire de Dieu, pas la gloire papillote, là. Je sais pas comment on dit. Bimbi, c'est ça, ne peut pas cohabiter, n'a rien à voir avec la gloire de Dieu et le péché, il n'y a pas cohabitation possible. Cette gloire est à venir. Cette gloire est à venir. Continuons notre texte. Et voici les premières recommandations qui arrivent après avoir parlé de tout cela, seulement après avoir parlé de cette origine, de cette destinée. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Encore le retour de Christ qui est pointé ici. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque vous, celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, je serai saint, vous serez saint, car moi, je suis saint. La destinée, le retour de Christ est l'origine autrefois. Autrefois. Et donc, on a ici de tenir notre intelligence en éveil, d'être réveillé, d'être sobre. Également, et de garder la foi. On va continuer. Et si c'est comme un père à qui vous faites appel, à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur terre. La destinée, donc, le jugement de la maison de Dieu, il y aura une évaluation de ce qu'a été notre vie. Tous les hommes seront évalués et les croyants aussi seront évalués par ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Et l'apôtre rappelle cela aussi. À cause de cela, donc, conduisez-vous maintenant avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur terre. Il continue. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent, l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre, dépourvu de sens, que vous avez transmis vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la création du monde. Il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous, par lui. Vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur subsiste éternellement, et cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alors là, il rappelle l'origine également, c'est par le sang précieux de Christ. Que vous avez été rachetés. L'origine, le sacrifice de Christ, prédestiné avant la création du monde, prévu de toute éternité, qui s'ancre dans l'éternité passée. Vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité, le moment de la conversion, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Et là, il y a ici l'exhortation, l'impératif, l'application. Un amour fraternel sincère. À cause de quoi ? À cause de l'amour que Jésus-Christ a eu pour nous à la croix. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et puissance pour moi et par elle dans la maison du Père. La victoire est offerte à ma foi. On l'a chanté tout à l'heure. Verset 23. En effet, vous êtes nés de nouveau, l'origine, non pas d'une semence incorruptible, mais par la parole de Dieu, la parole vivante et permanente de Dieu qui ne change pas. Contrairement à tout ce qui concerne la gloire des hommes, et bon, c'est assez facile à comprendre, les gens, les hommes passent, ils ont beaucoup de peine à chercher, il y en a qui cherchent leur place dans le dictionnaire, ils veulent qu'on se souvienne de leur passage sur la terre, mais les années passent, et qui va s'inquiéter d'eux maintenant? L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur que nous avons ici, entre nos mains, dure éternellement. Avoir un amour fraternel sincère, voilà l'application de ce texte de petite gras là que l'apôtre met entre cette point de départ qu'a été le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, la conversion, les choses qui sont certaines. Et donc, il continue avec quelques instructions. Débarrassez-vous donc, en relation avec cet amour fraternel, débarrassez-vous donc de toute méchanceté, toute ruse, l'hypocrisie, l'envie, toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, ainsi grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Être des nourrissons dans la foi, c'est l'origine, et destiné le salut final, la glorification. Vous grandirez pour le salut. Le salut complet, définitif, total. Et donc, voilà une belle application que met l'apôtre, toujours entre les deux, entre cette origine et cette destinée sur notre chemin, la lecture de la parole de Dieu, l'amour des saintes Écritures. Et donc, je passe sur le « débarrassez-vous de toute méchanceté, toute ruse, de toute hypocrisie » qu'il faut définitivement balayer de notre vie face à cela. On peut avancer au verset 4. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Là, l'apôtre fait beaucoup de références à l'Ancien Testament, au temple, au culte. Et il continue. « Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisent est devenue la pierre angulaire. » Elle est aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils ont désobéi à la parole et c'est à cela qu'ils avaient été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu compassion. Vous avez maintenant obtenu compassion. Alors s'approcher de Jésus-Christ, c'est cette pierre incontournable que chaque personne sur la terre rencontre. Jésus-Christ, qu'est-ce que je fais de Jésus-Christ? Qu'est-ce que je fais de cette pierre? Est-ce que je vais la trouver comme non conforme, la mettre de côté? Non, Jésus-Christ n'est pas le Messie, il n'est pas le Seigneur, il n'est pas celui qui a le droit que je règne sur lui. On le met de côté, mais on va trébucher dessus. Ou alors, on reconnaît Jésus-Christ comme ce Seigneur, ce Sauveur merveilleux. Bernard nous a parlé de la description de ce qu'a été sa vie à travers les quatre évangiles. Une personne remarquable. Et si nous tombons amoureux de Jésus-Christ, si nous le découvrons, si nous disons vraiment c'est lui, c'est à lui que je peux confier ma vie. Alors, c'est ainsi qu'on peut être un peuple choisi. Qui on est, ce que nous sommes dicte, ce que nous faisons. Si nous sommes un peuple choisi, nous devons agir et nous comporter comme un peuple choisi. Et pas comme il nous semble bon. Si c'est Dieu qui est à l'origine de ce que nous sommes, alors nous devons logiquement, très logiquement, nous conformer à ce que Dieu attend de nous. Si nous sommes dans une maison et c'est le papa qui fixe un petit peu, la maman aussi, la façon dont on fonctionne pour les enfants dans la maison. Et voilà, si on est chaque maison, on a son identité. Et si nous sommes enfants de Dieu, ben c'est normal que nous soyons appelés à la sainteté. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Autrefois, vous n'aviez pas obtenu compassion, mais maintenant, vous avez obtenu compassion. Bien-aimés, verset 11, je vous encourage en tant que résident temporaire, étranger sur la terre, de passage donc, à vous abstenir des désirs qui font, des désirs de votre nature propre, qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Des résidents temporaires, des sans-papiers, des sans-domicile fixe, on n'est pas de ce pays, on n'est pas de cette terre. On est en chemin vers la maison céleste. Et avec cette pensée-là, il va développer ensuite, dans un long passage, tout ce qui concerne la soumission aux autorités, la soumission dans le travail, la soumission dans la maison, et la soumission entre nous, entre frères et sœurs dans l'Église. Il faut le comprendre dans ce contexte-là, en tant que résident temporaire, étranger sur la terre. Ce qui va compliquer notre vie, c'est le désir de ce que nous sommes encore dans cette enveloppe mortelle, dans son, déjà encore qui péchons, qui faisons des choses qui ne sont pas correctes. Et on a chanté ce chant tout à l'heure, « Pardon Seigneur, pardon ». On n'est pas encore atteint le ciel, on n'a pas encore atteint la perfection, et s'il y a cette nature qui traîne, qu'on avait autrefois, et qui qu'on traîne avec nous, mais elle doit de plus en plus s'affaiblir. Et cette, la nouvelle création que Dieu a faite en nous doit de plus en plus grandir. Et donc il y a ce, cette grande tirade maintenant. À cause du Seigneur, à cause de lui, soumettez-vous à toutes les institutions établies par les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit au gouverneur parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal, approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté, de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers, car c'est une grâce de supporter les difficultés en souffrant injustement pour garder une bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer le mauvais traitement si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. De fait, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. L'origine. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait, ne rendait pas l'insulte, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui, qui a lui-même porté nos péchés dans son cœur à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. L'origine, pour expliquer toute cette notion de soumission, qui est une soumission volontaire, c'est pas avec l'idée de la soumission contrainte, c'est une soumission choisie, hein. C'est pas une soumission subie. C'est différent de ce qu'on attend par soumission aujourd'hui, bien évidemment. C'est un choix. C'est à cause de Jésus-Christ, à cause de ce qu'il a fait et à cause de ce qu'il me demande, simplement. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari, ainsi ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Que votre parure, ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or, vêtements élégants, mais plutôt investissez dans la parure intérieure et cachée du cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. Les hommes aussi ont besoin d'un esprit doux et paisible, je vous rassure. Les hommes aussi ont besoin d'un esprit doux et paisible, d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes espéraient en Dieu se parer autrefois. Elles se soumettaient à leur mari comme Sarah, qui a obéi à Abraham et l'appelait son Seigneur. Vous êtes devenues ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Quand nous étudions la vie d'Abraham et de Sarah, on a vu comment Sarah avait eu, à certains moments, des rôles capitaux à jouer dans ce ménage qui était Abraham, dans ce couple que formaient Abraham et Sarah. Vous êtes devenues ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et Marie, vivez maintenant de même en montrant de la compréhension pour votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de vie. Agissez ainsi, que rien ne fasse obstacle à vos prières. Montrez-vous de l'estime, honorez-la. Honorez-la. Rendez-lui de l'honneur. Elle doit hériter aussi, donc il pointe vers la destinée. C'est en vue de la destinée de leur épouse que les maris doivent se comporter, en clair. En vue de la destinée de leur épouse que les maris doivent se comporter. Et sa destinée est la même que la nôtre, dans le ciel, héritière. Avec vous de la grâce de vie, écrit Pierre. Enfin, ayez tous les mêmes pensées, les mêmes sentiments, soyez pleins d'amour fraternel, de compassion et de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, bénissez au contraire, vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. La destinée, bénissez afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix, la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez donc aucune crainte, ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, la destinée. Défendre l'espérance qui est en vous, défendre. Toujours prêt à défendre votre destinée devant tout ce qui vous en demande la raison. Faites-le avec douceur, faites-le avec respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, paradoxe, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. On va s'arrêter là. Vous pouvez continuer si vous souhaitez de poursuivre ce texte en voyant les relations entre notre origine et notre destinée. Alors, en conclusion, que nous avons la conscience de notre privilège. L'apôtre Pierre, c'est lui qui parle. Hein. Il s'adresse à des personnes qui sont élues. Est-ce que nous avons conscience de cela? Est-ce que nous avons conscience que nous sommes peuple de Dieu? Gardons toujours en tête d'où nous venons. Le sang de Jésus-Christ versé à la croix pour nous racheter, pour nous faire passer de la mort à la vie. Gardons toujours en tête où nous allons, au ciel de gloire, à la maison de Dieu. Et notre vie trouvera ainsi son sens et son épanouissement. Ici-bas, l'apôtre Pierre parle beaucoup de difficultés, Mais vous avez vu et en écho à ce que disait aussi Morel dans son introduction, ben, il parle aussi de bonheur, il parle aussi de joie, il parle aussi de poursuivre la paix. Bref, d'être heureux ici-bas, sur ce chemin de sanctification. On va prier maintenant. Oui, Seigneur, fais-nous saisir la réalité de ce que nous sommes et que nous puissions agir en fonction de cela. Merci pour ces instructions qu'a laissé l'apôtre Pierre, tous ces commandements, ces impératifs qui sont justifiés. Ou quand on regarde les enjeux qui sont en cause. Merci pour cet accompagnement sur le chemin qui est personnalisé. Merci pour les frères et sœurs également, ce cheminement ensemble. Tu es notre berger personnel, mais nous marchons également avec un peuple, avec un troupeau. Et merci pour le soutien et la possibilité de pouvoir vivre l'amour avec nos frères et nos sœurs, cet amour fraternel, sans défaut, sans hypocrisie, sans, qu'en dira-t-on, sans vouloir le faire parce qu'on s'attend à ce que ce soit fait, mais une vie en toute transparence. Merci Seigneur de cela est possible, tu nous as donné une famille ici-bas même de chair et d'os comme nous. Merci pour cette espérance dans le ciel compréhensible. Aide-nous Seigneur à rester fidèles par la foi, à marcher par la foi, à vivre pour toi, tout simplement, et à ce que tu es toujours là, la première place dans nos vies, sans chercher à nous comparer les uns aux autres, sachant que c'est toi-même qui, dans le ciel, distribuera ou mettra à l'honneur les personnes que tu verras. Merci pour l'approbation aussi qui se dégagera par rapport à tout ce que tu feras, tous tes jugements qui seront justes, parfaits. Et Seigneur, merci de bien utiliser, apprendre à bien utiliser notre temps, comme on l'a vu la semaine dernière, de bien compter nos jours qui passent si vite ici-bas. Bénis notre Église et notre Assemblée. Bénis chacun et chacune qui est là ce matin. Merci de faire du bien. Merci d'apporter chacun ce dont il a besoin, nos besoins que tu connais. Merci de ce pardon encore dont on a évoqué tout à l'heure. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.